Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez l'Arène, c'est l'émission d'information locale de Canal B. Au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, pas de remise en service de la ligne B avant le printemps. Interview avec Marie-Christine Delmotte pour annoncer le prochain jeudi des archives. Il y aura de la musique, dont une nouveauté. Corentin qui annonce les semaines d'information sur la santé mentale à Rennes du 16 au 29 mars. Et puis la recommandation du jour, deux événements à vivre jeudi 14 mars. Bienvenue dans l'Arène. Tous les jours, c'est la même chose, on débute l'émission d'information locale avec une info du jour, une choisie parmi d'autres dans ce qui se raconte dans les médias locaux. Aujourd'hui, point de situation sur les travaux de la ligne B du métro à Rennes. On le redit à l'arrêt depuis le 3 janvier suite à la casse d'une pièce mécanique. Le résultat, c'est que l'ensemble de ces pièces, il y en a 100, doivent être changées sur les 25 rames du métro et ça prend du temps. D'autant plus que les pièces, une fois démontées à Rennes, doivent être acheminées sur le site du constructeur Siemens en Haute-Vienne. Les quatre premiers bogies d'une rame ont été remis à neuf et seront remontés la semaine prochaine. Il reste donc 24 rames, d'où l'absence de calendrier précis pour le moment. Dans son dernier communiqué, Rennes Métropole évoque une fin des interventions techniques au cours du printemps, ça peut nous amener jusqu'au mois de juin, et il faudra ensuite attendre l'autorisation de l'État pour la remise en service officielle. En attendant, chez l'exploitant Keolis, qui supervise le STAR, service de transport de l'agglomération rennaise, eh bien le chômage partiel est prolongé jusqu'au 19 mai. Ça concerne une centaine d'agents de maintenance et l'offre de bus, on peut le redire, elle a été revue pour améliorer les déplacements des usagers avec une fréquentation sur le réseau en hausse de 2% si on compare à l'avant ligne B. Allez, après cette info du jour, on passe à une première interview. Marie-Christine Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes docteur en histoire, enseignante à la retraite et puis l'invité du prochain jeudi des archives. Le rendez-vous est donné aux archives municipales avenue Jules Ferry à Rennes, jeudi 14 mars à partir de 18h. Et le thème de la conférence, il est en fait inspiré de celui de votre thèse que vous avez soutenue fin 2022.
Oui,
on le donne.
Récent.
C'est récent.
Alors c'est la violence féminine en Bretagne au XVIIIe siècle. Je me suis intéressée au XVIIIe siècle parce que pour moi, c'est un siècle de changement. Il y a une grosse différence entre le début du siècle, où c'est encore l'Ancien Régime, puis la fin du siècle, où on a évolué avec les Lumières et tout ça. Et la violence, le terme de la violence, eh bien de la violence des femmes, c'est un aspect qui a été souvent négligé, où on a parlé de grandes empoisonneuses, de grandes criminelles, surtout au XIXe siècle, mais assez peu de la violence ordinaire, donc des femmes. Et comme aujourd'hui, on parle, et à juste titre, surtout de la violence sur les femmes, j'ai pensé que c'était intéressant de voir si dans le passé, les femmes étaient violentes ou pas et comment et ça pouvait se rattacher justement à aider à sortir de cette image qu'on a de femmes comme éternelles victimes.
Donc voilà. Vous citez les empoisonneuses, on pense évidemment en Bretagne à Hélène Jégado, là au 19e siècle, qui avait eu le droit à son exposition il y a quelques années aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Donc là, on est au 18e siècle, à savoir le siècle des Lumières. J'avoue que j'ai été surprise, moi, en découvrant le sujet donc des femmes violentes, puisqu'on le rappelle, ce sont plutôt elles les premières victimes des violences à travers l'histoire et à travers le monde. Donc on va venir décaler notre regard. Il s'est allé sur quelle durée, ce travail de thèse? On sait que c'est un travail conséquent, là on parle d'une thèse de 900 pages.
C'est un travail d'à peu près 5 ans, sachant que sur les 5 ans, il y a quand même plus de 2 ans qui est exclusivement du dépouillement d'archives. Alors toutes sortes d'archives à toutes sortes d'endroits, essentiellement aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, mais aussi dans le Finistère, un petit peu dans le Morbihan, puis les archives municipales de Rennes aussi, qui ont amené un bon lot d'affaires de violence.
Ça a été facile de les trouver, ces documents? Est-ce qu'il s'agit d'un fonds qui est riche, où il faut aller voir voir entre les lignes, notamment des procès-verbaux?
Ce sont des fonds qui sont très riches et quand on s'y penche, il y a énormément d'affaires de violence impliquant des femmes. Il y a des endroits dans certains fonds, ça peut aller jusqu'à un quart des affaires. Donc c'est extrêmement important, mais il n'y a pas d'inventaire. Et quand il y a eu des inventaires détaillés de certains fonds, on notait, enfin les messieurs, c'était en général fin 19e, début 20e, donc les messieurs qui faisaient ça, s'intéressaient aux affaires les plus marquantes. Donc dans les inventaires, il y avait tout ce qui était intéressant. Enfin, pour eux, et donc qui concernait essentiellement des hommes. Et puis, à la fin, c'est etc. Et souvent, les affaires de violence féminine, elles sont justement dans ce etc. parce qu'ils trouvaient que c'était pas intéressant. Donc, on peut pas savoir à l'avance ce qu'on va trouver. Donc, c'est extrêmement chronophage aussi parce qu'il faut tout examiner, quoi.
Donc, les archivistes, mais aussi les historiens, ont participé à l'invisibilisation dans l'histoire de la violence des femmes. Pourquoi ? Parce qu'elle elle dérange aux bonnes mœurs ou
Je pense que c'était pas forcément volontaire. Parce que quand on cherche bien, quand on lit ces documents, on voit quand même que les juges, que la justice de cette époque-là, elle prenait la violence des femmes très, très au sérieux, puis qu'elle les savait tout à fait susceptibles, par exemple, d'initier des révoltes de grande ampleur ou des choses comme ça. Mais par exemple, dans le cas d'une révolte, comme c'est les hommes qui ont les armes, donc sont eux qui finissent par se même, ce sont les femmes qui sont dominantes et puis qui ont initié la révolte. Deux, trois hommes qui ont les armes, c'est eux qu'on va remarquer. Et puis, s'il y a des négociations, c'est eux qui vont parler, parce que forcément, on parle qu'à un homme, pas à une femme. Donc, ben, dans les documents, presque involontairement, ils se trouvent mis en avant. Et alors après, les historiens, qui étaient quand même souvent des hommes issus du patriarcat, ben ils ont continué comme ça, en s'intéressant qu'à la superficie des choses, et bien c'est resté une histoire d'hommes, quoi. Donc il faut tout reprendre à zéro et tout réexaminer pour montrer la place des femmes.
C'est ce que vous faites donc avec cette thèse qui a été soutenue fin 2022 et qui donne lieu à une conférence jeudi 14 mars aux archives municipales de Rennes. La violence féminine au XVIIIe siècle s'inscrit dans le contexte d'une société elle-même violente. Ce sont les premiers mots de la présentation du jeudi des archives. Et il y a d'abord les violences dites du quotidien, des violences exercées contre qui j'ai pensé aux enfants, ça peut aussi être entre femmes. Est-ce qu'il y a des situations qui apparaissent plus souvent que les autres ?
Mais il faut voir qu'à cette époque, on vit beaucoup dans la rue. D'ailleurs, Arlette Farge a fait un livre « Vivre dans la rue », ça se passe à Paris. Mais en fait, on s'aperçoit qu'ici, c'est exactement la même chose, on vit dehors. Donc, les raisons de conflit, c'est des raisons de voisinage, c'est toute la promiscuité dans les villes, le bruit, les querelles d'enfants qui dégénèrent. Donc, beaucoup de conflits de voisinage à la campagne, des conflits autour des terres, des bestiaux, des choses comme ça. Donc oui, c'est essentiellement une violence dans l'espace public, donc qui est très visible. Mais les hommes sont violents aussi. Il y a quand même une atmosphère un peu de violence. On a l'impression qu'on s'empoigne quand même assez facilement dans la rue. Et puis évidemment, les femmes y participent au même titre que les hommes, quoi.
Sur la condition sociale de ces femmes, on parle de milieux sociaux plutôt populaires ?
Oui, oui et non. C'est-à-dire qu'on remarque donc à la charnière du XVIIe et du XVIIIe siècle qu'il y a un certain nombre de violences chez des femmes de condition. Bon, et puis ça s'estompe et c'est vrai que la violence paraît devenir plutôt une habitude des milieux populaires. Alors, personnellement, je pense pas que la violence se cantonne au milieu populaire, c'est plutôt qu'elle est plus visible que la violence des classes privilégiées, elle est peut-être aussi plus subtile, plus sournoise, donc moins détectable. Et puis aussi, on va moins facilement, par exemple, une servante qui est maltraitée, elle n'ira pas facilement se plaindre d'une personne du condition, encore moins d'une personne de la noblesse.
Et il faut dire que les femmes, à l'époque, dans les milieux sociaux particulièrement favorisés, sont cantonnées à la sphère domestique et donc plutôt en intérieur, quoi.
Je pense que cette vision de la femme cantonnée à la sphère domestique, c'est une vision de la bourgeoisie, c'est un idéal bourgeois qui s'est développé après au 19e siècle jusqu'à vouloir s'imposer à tout le monde. Mais j'ai rencontré des affaires où, au début du siècle, où des femmes de la noblesse se malmenaient quand même assez sérieusement. Par exemple, une qui reçoit un coup de chandelier, avec souvent des questions de rivalité de position sociale, de place à une procession, enfin de représentation, quoi. Voilà.
Vous avez donc étudié la condition sociale des femmes violentes, les causes qu'on a évoquées. Il peut être question d'argent, de querelle familiale ou de voisinage, de travail ou encore d'honneur. Les formes de la violence, elles vont de l'injure à la menace et jusqu'au coup. L'honneur tient une valeur qui est centrale à l'époque.
Ah, absolument, absolument. La preuve, c'est que les injures, donc qui attaquent l'honneur, elles sont considérées par les plaignants, mais aussi par la justice et le droit, comme aussi importantes que les coups. C'est-à-dire la violence ordinaire, elle peut aller très loin. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas mort, enfin que la victime n'est pas morte, c'est toujours susceptible de s'arranger avec une procédure plus simple. Donc, ce qui fait la rupture, finalement, entre les deux formes de violence, c'est si on en meurt ou pas. Mais, donc, on peut être très malmené physiquement, mais les injures ont quand même autant d'importance que ça. Parce que l'honneur, c'est un capital social, finalement. Donc, c'est ce qui fait qu'on va garder sa clientèle, qu'on va trouver du travail, voire qu'on va trouver à se marier. Donc c'est extrêmement important. Donc, c'est pour ça qu'on attache autant d'importance aux injures.
La seconde partie de votre thèse, Marie-Christine Delmotte, elle est consacrée à la violence des femmes lorsqu'elle devient intolérable, inacceptable, à savoir celle qui cause la mort. Il y a le sujet des meurtres et des infanticides. On dit un mot là-dessus ?
Oui, donc elle devient inacceptable, oui, quand il y a un meurtre où les femmes sont finalement assez peu présentes. Donc il y a quelques empoisonneuses, quelques criminels, mais pas énormément. C'est là que se fait la rupture. Autant les femmes sont présentes dans la violence ordinaire, autant dès qu'on va au-delà, il y en a beaucoup moins. Elles sont plus souvent complices. Après, elles peuvent aussi jouer là-dessus pour minimiser leur rôle. C'est pas toujours très clair. On voit que les juges, parfois, dans certains meurtres, pensent que la femme y est pour quelque chose, mais ils peuvent pas le prouver, quoi. Et puis, bon, il y a la question des infanticides qui est quand même spécifiquement féminine. Et puis, il y a toutes les violences qui sont graves, qui sont pas homicides, mais qui sont graves parce qu'elles dérangent, parce qu'elles perturbent l'ordre social.
C'est là qu'on parle des délinquantes, des marginales, de ce qu'on appelle des filles de mauvaise vie.
Voilà, et puis les démentes, les indigentes, enfin toutes ces sortes de femmes. Et puis il y a la violence aussi dans la révolte, qui, comme elle s'oppose à l'autorité, forcément, elle est grave, même si dans les faits, il n'y a pas de grande violence.
Vous évoquez quelques figures de chefs de bande, comme celle de Marion Dufaouët, qui était, on va dire, brigande, et qui notamment a fait l'objet d'ouvrages par Colette Cognier, autrice féministe bien connue, rennaise. Et vous vous demandez mythe ou réalité, quoi.
Oui, je me suis intéressée, moi, à l'aspect donc violence. Alors, oui, elle était réellement chef de bande, puisqu'on le retrouve dans des documents judiciaires. Donc, bien après sa mort, de gens dit qui ont fait partie de la bande de Marion Dufaouët. Donc, elle était vraiment considérée comme chef. Alors, pourquoi ? Parce que apparemment, c'est elle qui décidait un peu, qui répartissait les affaires, si on peut dire, et tout ça. Bon, elle distribuait des sortes de sauf-conduits, des choses comme ça. Donc effectivement, elle était reconnue comme chef. Il y en a eu d'autres aussi. Elle n'était pas la seule, donc ce n'était pas exceptionnel. Je retrouve des documents d'archives où on accuse une fille ou telle autre d'être chef de bande. Donc ce n'était pas un mythe. Après, quand on regarde de près, elle était quand même très, très traditionnelle, dans ce sens que c'est pas elle qui exerçait la violence, c'est pas elle qui avait les armes, donc c'est quand même les hommes de sa bande ou ses compagnons successifs ou son frère qui eux étaient dans la violence et qui, je pense, c'est eux qui faisaient réellement peur aux gens, quoi. Donc quand même un rôle malgré tout un peu traditionnel, quoi.
Sur le regard porté sur la violence des femmes, que ce soit par la justice mais aussi par la société dans sa globalité, on le comprend, il y a des violences plus ou moins tolérables. De quelle façon étaient-elles sanctionnées ?
Ça dépendait de la condition de la personne qui était malmenée. Parce que ce qui était grave, c'était d'injurier ou de maltraiter des personnes de condition supérieure. Donc, quand une femme du peuple injuriait ou maltraitait une femme noble ou une femme de condition, c'était très grave. Donc, forcément, les sentences étaient beaucoup plus graves. Ça dépendait pas de ce qu'on avait fait, mais de à qui on l'avait fait. Alors, évidemment, les femmes du peuple étant tout en bas de l'échelle, c'était considéré finalement comme pas très grave, alors avec des sentences assez accommodantes, disons, défense de médire et de mal faire, enfin des petits dédommagements. Après, il faut dire quand même que fallait préserver l'ordre social, donc ménager les deux parties, puis il pouvait toujours y avoir, fallait éviter une spirale de vengeance. Je pense qu'ils avaient beaucoup peur aussi de ça, parce qu'on trouve quand même dans les affaires de meurtre et tout ça, beaucoup d'affaires qui sont liées à la vengeance, donc je pense qui voulait aussi éviter une spirale de violence.
Est-ce qu'il y a une histoire qui vous a plus marqué que les autres parmi les documents que vous avez découverts, beaucoup de procès-verbaux, on lit sur la présentation du jeudi des archives qu'il y a autant des histoires parfois amusantes qu'émouvantes ou tragiques de femmes oubliées par l'histoire avec un grand H. Est-ce qu'il y a des témoignages qui vous ont plus marqué que les autres ?
Il y en a plusieurs, oui, c'est vrai qu'il y a des histoires qui font rire, de femmes qui se battent, on a l'impression que c'est à la limite du vaudeville, c'est presque caricatural, donc il y a des histoires amusantes. Bon, c'est vrai que les histoires tragiques marquent toujours plus, quoi. Je sais que j'ai été émue par quelque chose qui au fond n'avait pas tellement d'importance à côté de tout ce que j'avais trouvé. C'était en général, quand quelqu'un est condamné à mort, donc quand une femme est condamnée à mort, il y a le greffier qui va lui lire la condamnation et tout ça. Mais dans les documents d'archives, c'est toujours très, très succinct, lui avons lu. Et on se dit, mais comment a pu réagir cette personne et tout ça. Mais en fait, on n'en sait rien vraiment des conditions de tout ça. Et il y a, je ne sais pas pourquoi, un greffier qui un jour raconte comment il a procédé, qu'il est rentré, qu'il s'est approché de la barrière en bois et qu'il a lu la sentence à la femme et qui a éclaté en sanglots. Il dit, j'ai cru comprendre dans ses transports qu'elle voulait faire appel. Donc il raconte un peu tout ça. Donc du coup, ça donne une scène plus vivante, moins abstraite, moins éloignée. Et on voit cette femme qui pleure et c'est assez émouvant.
Et qui est condamné pour quoi en l'occurrence ?
Un infanticide.
On vous retrouvera pour parler de tous ces sujets jeudi 14 mars aux archives municipales qui sont situées avenue Jules Ferry à Rennes. Donc lors d'une conférence sur la violence des femmes à Rennes au XVIIIe siècle, puisqu'il y aura un focus fait sur Rennes, vous vous appuierez sur des documents extraits des archives municipales où vous êtes allé d'ailleurs rechercher plein de choses.
Pour cette conférence, je vais vraiment axer sur des documents qui sont visibles, d'ailleurs que les gens pourront voir, pourront manipuler.
Et pour aller plus loin, on peut dire que votre thèse, donc 900 pages, elle est disponible en ligne sur la plateforme thèse.hal.science, HAL pour hyper article en ligne. C'est une plateforme où on retrouve plein de thèses comme celles que vous avez réalisées et rédigées, et bientôt peut-être une publication plus accessible pour le grand public, toujours sur ce thème.
Voilà, normalement, au dernier trimestre, sur la fin de l'année, il devrait paraître une version plus grand public aux éditions des Perséides.
Et on en reparlera au moment de la sortie de cet ouvrage. Marie-Christine Delmotte, vous êtes donc docteur en histoire, enseignante à la retraite et l'invitée du prochain jeudi des archives. Ces conférences qui sont organisées aux archives municipales. Et donc la prochaine, c'est jeudi à 18h. C'est un événement qui est gratuit et sans inscription. Plus d'infos sur le site archives.rennes.fr. Merci beaucoup.
Merci.
Where I'm from, Sunday's the first day of the week. Where I'm from, you'll find wine instead of water in the creek. Where I'm from, the strong they live off of the weak. Where I'm from, the boys, they are dressed like girls in pretty skirts. They twist each other's hair into curls. Where I'm from, nobody walks, everybody twirls. And where I'm from, there's no king or queen, and that's fine. They use the sun and the moon to tell the year and the time. Where I'm from, it's far from here, but it's mine. Far from here, but it's mine.
From par Mesquerem Mise. C'était le choix musical de Marie-Christine Delmotte qu'on vient d'entendre dans une interview. Un extrait de l'album Julius qui est sorti en 2021. C'est le premier disque de cette musicienne belge de 24 ans que vous venez d'entendre dans l'arène. C'est l'émission d'information locale de Canal B. Vous êtes sans doute branché sur le 94.0, mais vous pouvez aussi nous écouter en ligne sur canalb.fr. Un site où sont par ailleurs disponibles tous les podcasts des émissions réalisées par des salariés, mais aussi par de nombreux bénévoles. Allez, on poursuit l'émission du jour avec une deuxième interview menée par Corentin, volontaire en service civique.
À partir de samedi 16 et jusqu'au 29 mars, c'est les semaines d'information sur la santé mentale à Rennes. Des ateliers, conférences, ciné-débats et expositions sont organisés pour parler de ce sujet commun à toutes et tous. Je suis avec Cécile Poutot de l'association Oasis, Oser une autre voix, pour en parler. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Alors est-ce que tu peux dire dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est ces semaines d'information sur la santé mentale qui vont commencer à Rennes samedi ?
Donc en fait la semaine d'information sur la santé mentale a pour objet d'informer et puis de public sur la santé mentale, mais au sens large, c'est pas uniquement la santé mentale, on va dire, psychiatrique qu'on pourrait énoncer, mais c'est vraiment la santé mentale dans sa globalité, c'est surtout le bien-être, on va dire, psychologique ou psychique de la personne. Et dans ce cadre-là, il y a tout un nombre de collectifs, hein, d'associations de Rennes et du département qui se sont réunis pour proposer un ensemble d'ateliers ou d'activités pour un peu promouvoir ce qui peut exister sur le territoire et inviter les personnes à un peu réfléchir à leur bien-être psychologique en abordant un certain nombre de thèmes et en allant à leur rencontre.
Ces rencontres, du coup, c'est organisé par le collectif SISM, S-I-S-M.
Exactement, oui. Donc en fait, on s'est réunis, on a organisé dans le cadre de la métropole de Rennes et ainsi que la maison de la santé, des animations. On a créé tout un programme qui dure 15 jours pour proposer différentes interventions et inviter le public à venir nous rencontrer.
Un des temps forts qui est annoncé, c'est l'événement qui sera samedi 16 mars au Parc du Tabor, le forum « On a tous une santé mentale ». Qu'est-ce qui va s'y passer ?
Alors en fait, il y a plusieurs collectifs ou associations qui seront présentes et qui vont pouvoir proposer des activités. Donc, notamment, il y a le projet Porteur de Parole, où en fait, on va vers le public qui sera au Tabor et on les invitera à venir aborder avec nous comment ils se sentent par rapport à leur santé mentale, notamment avec la question « quand tu vas mal, qu'est-ce que tu fais ?» Et par le biais d'un thermomètre des émotions, les faire réfléchir sur leurs émotions du moment, leur paysage intérieur, si on veut, avec des couleurs, et de dire par rapport à ces émotions, éventuellement de les aider à définir quels sont leurs besoins, et puis d'écrire ou de dessiner leur ressenti sur une grande fresque.
Ok, et du coup, à cette occasion-là, ce sera le moment aussi pour rencontrer les différentes associations qui agissent pour la santé mentale à l'échelle de Rennes.
Là, exactement, donc il y aura un certain nombre d'associations qui seront présentes pour répondre à l'ensemble des questions du public et leur présenter les services qu'ils peuvent proposer.
Du coup, parmi les associations membres du collectif SISM, figure l'asso Oasis, dont tu fais partie. Qu'est-ce que c'est cet asso ?
Alors, l'association a été créée par Sylvie Moulussin, qui est une bénévole, mais aussi patiente partenaire auprès des établissements, notamment hospitaliers. Et donc, elle présente son expérience de la maladie pour notamment agir sur le parcours de santé des personnes. Et Oasis est plutôt spécialisée dans l'idée d'accompagner les jeunes et les enfants à développer leur bien-être, notamment à l'école ou à l'université. Et donc l'idée, c'est de travailler sur et d'apprendre aux enfants et aux jeunes de développer leurs compétences, ce qu'on appelle psychosociales, c'est-à-dire des compétences qui sont en lien avec la confiance en soi, identifier et travailler sur ses émotions pour un mieux-être, travailler son lien à l'autre, poser des limites, définir des croyances limitantes. Voilà, ce sont toutes ces capacités qui permettent au fur et à mesure de faire face à des situations qui peuvent être difficiles pour les personnes, et donc à baisser leur charge mentale et améliorer leur bien-être psychologique et physique. Ça va avec.
Parmi les nombreux ateliers organisés ces deux prochaines semaines, il y en a donc qui seront organisés par l'association Oasis, dont un café philo le jeudi 21 mars.
Donc l'idée du café philo, c'est d'inviter un public à s'inscrire auprès de moi pour un petit peu réfléchir à cette notion de qu'est-ce qui nous limite. Est-ce que c'est la peur de rater ou la peur de réussir ? Et donc, je vais proposer un certain nombre de petites activités pour amener les personnes à réfléchir sur cette notion et identifier que ça peut être différent de ce qu'on peut croire ou imaginer au regard de nos éducations, représentations ou croyances limitantes.
Ce sera plutôt basé sur l'échange, du coup, sur le groupe de discussion.
Exactement, c'est un groupe de discussion en général, mais aussi par petits groupes, pour identifier les représentations des uns et des autres. Et on a le droit de ne pas être d'accord, c'est tout l'intérêt du débat philosophique. Mais aussi d'identifier qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à dépasser telle ou telle croyance. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éventuellement les dépasser si on en ressent le besoin.
Le café philo s'appelle « Qu'est-ce qui nous limite ? La peur de rater ou la peur de réussir ?» Et ce sera au café Cortina de 18 à 20h, jeudi 21 mars. En quoi la santé mentale, c'est un sujet commun à tout le monde ?
En fait, on a tous une santé mentale à protéger. Hein, et puis, l'Organisation mondiale de la santé dit bien que pour une meilleure qualité de vie, c'est à la fois important de prendre soin effectivement de son corps physique, mais aussi de son corps, on va dire, psychologique. Et c'est un tout. Et souvent, on considère que finalement, on doit aller à la rencontre de personnes, psychologues ou des gens qui peuvent nous aider, que quand on est vraiment au fond du trou. L'idée, c'est de faire attention à son bien-être psychologique. Et souvent, malheureusement, de par notre éducation ou quelque part, on nous a peut-être invités à aller au bout du bout pour prendre soin de soi. On ne s'autorise pas à faire appel et à dire « j'en peux plus, j'ai une charge mentale trop élevée ». Et certaines personnes se rendent compte même plus qu'elles ont une charge mentale trop élevée. Et donc, du coup, c'est aussi aider les personnes à prendre conscience qu'il y a peut-être des curseurs à identifier pour prendre soin de soi.
En dehors des répercussions personnelles, est-ce qu'il y a des choses palpables qui prouvent la mauvaise gestion d'une santé mentale dans la société, par exemple ?
Par exemple, sur la région Bretagne, il y a une étude qui a été faite par Césaire qui démontre que la deuxième cause de mortalité chez les jeunes est le suicide après les accidents de la route. Donc, notamment depuis le Covid, on perçoit, quand on accompagne des jeunes et des moins jeunes, que finalement, les gens se sentent mal de plus en plus, mais qu'ils ont des difficultés à en parler parce que soit ils considèrent que c'est normal parce que notre société ne nous aide pas forcément à l'énoncer, soit ils n'arrivent pas à identifier les ressources pour les aider. Et souvent, il faut aller voir le psychologue ou le psychiatre. Voilà. Mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément si évident à faire pour tout le monde. Parce qu'on peut avoir des croyances sur le fait qu'aller voir un psychologue ou un psychiatre, c'est que pour les fous, entre guillemets. Et l'idée, c'est de changer un petit peu aussi ses croyances et d'accompagner les personnes à prendre soin d'elles. Voilà. Donc, on ne peut pas tout changer d'un coup, mais en tout cas, voir qu'est-ce qui fait qu'elles se sentent mal dans leur quotidien ou dans leur travail, et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place pour réduire cette charge mentale, ce stress, pour qu'elles se sentent petit à petit mieux.
J'imagine que ces semaines de sensibilisation, elles sont aussi et peut-être même surtout ouvertes aux personnes qui se sentent pas mal ou alors en tout cas qui s'en rendent pas compte, quoi.
Oui, c'est ça. C'est, effectivement, y a les personnes qui ont des problèmes psychiatriques qui sont en général accompagnées, mais pas toutes, donc. Et c'est surtout effectivement les personnes qui finalement ne perçoivent même pas qu'elles ne sont pas bien ou qu'elles ne s'autorisent pas à le dire. Et finalement, dans notre société, on a tendance à plus du tout écouter les gens d'une manière attentive. Et donc, c'est aussi proposer des espaces d'écoute bienveillante à des gens qui auraient besoin de parler d'eux. Et puis, sans jugement, en respectant aussi les difficultés et les besoins des uns et des autres, et les aider éventuellement à les diriger vers votre association qui pourrait les accompagner ou en tout cas les inviter à faire peut-être un premier pas pour qu'elles se prennent soin d'elles.
Pourquoi la santé mentale, elle peut être un sujet tabou chez certaines personnes ?
Je pense que c'est lié soit à une éducation, soit aussi à une peur, quelque part. Dire qu'on n'est pas bien d'une manière psychologique, c'est pas évident pour tout le monde parce que notre éducation ou la société nous invite à toujours être fort. Par exemple, moi j'ai été éduquée où finalement la vie doit être dure, c'est compliqué, il y a toujours plus grave que chez les autres, il ne faut pas se plaindre. Et donc du coup, ça peut être compliqué quand on a reçu ces éducations et du coup ces croyances limitantes de s'autoriser à prendre soin de soi. Puis en termes de priorité, évidemment, il y a toujours plus de prix. Les choses comme les enfants ou son travail sont souvent plus, on considère que c'est plus prioritaire que prendre soin de soi. Et Et donc, du coup, bah, on, à un moment donné, soit on tombe souvent dans un burn-out, ou une dépression, ou voire pire, parce que on ne s'est pas autorisé à prendre soin de soi et à un moment donné à se poser et à dire bon, là, il faut que je ralentisse mon rythme de vie, ou il faut que je pose des limites.
Le thème de cette année pour ces semaines de sensibilisation, c'est En mouvement pour notre santé mentale. Pourquoi ce thème ?
Alors, c'est lié notamment avec les Jeux Olympiques, et identifier qu'effectivement, l'activité physique est une chose, mais c'est aussi, en fait, notre corps hein, nous montre, quand on sait l'écouter, que bah, finalement, ça, on va peut-être trop loin. Hein, quand on est fatigué, quand on a du mal à se lever le matin, ou on sent qu'on n'a pas envie d'y aller, mais finalement, on se force. Ça va à l'encontre de finalement ce que notre corps nous dit hein, quand on a des douleurs, etc. Notre corps est là pour nous montrer des choses. Donc ça c'est une chose. Et puis effectivement, le mouvement, la respiration, l'activité physique, le sport permet aussi de se sentir bien et notamment de libérer une charge mentale. Donc voilà, quel que soit le mouvement, ça va de la respiration, une activité physique ou un sport. Permet aussi de prendre soin de soi et d'avoir une sorte de bouffée d'air.
C'est quoi les objectifs de ces semaines d'information sur la santé mentale ?
C'est d'aider les personnes à prendre conscience d'où elles en sont actuellement dans leur santé mentale et effectivement de casser les préjugés ou les représentations négatives sur le fait de la santé mentale, c'est uniquement pour les personnes qui ont des maladies psychiatriques. Et vraiment aider les gens et à les inviter à s'écouter, à identifier leurs émotions, leurs besoins. Et que ce n'est absolument plus quelque chose de tabou, mais quelque chose d'important pour qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils puissent aussi montrer l'exemple à leurs enfants.
Les semaines d'information sur la santé mentale, c'est tout un tas d'ateliers qui sont organisés à Rennes sur le sujet de la santé mentale. Ça se passe du 16 au 29 mars et c'est organisé par les associations du collectif SISM. Vous pouvez retrouver le programme complet des ateliers de ces deux semaines sur le site internet maisondelasante.com. Merci Cécile pour ces réponses.
Merci beaucoup.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Aline, La Lune sera bleue sur Canal B. C'était une nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio, extraite d'un album du même nom, La Lune sera bleue, qui est sorti le 16 février chez Caramba Records. 9 titres inédits qui ont été enregistrés il y a un petit moment, entre 2009 et 2015, et qui se dévoilent aujourd'hui au public à travers un troisième disque, là, pour Aline, qui est un groupe marseillais. Vous êtes toujours sur Canal B dans l'Arène, l'émission d'information locale de la radio. Avant de se quitter, la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des conseils d'événements à vivre près de chez vous, aussi de quoi nourrir vos envies de lecture, de podcast ou encore de documentaire. Aujourd'hui, on vous conseille deux événements à vivre jeudi 14 mars en soirée. D'abord, une conférence à 18h30 du côté des Champs Libres, Temps, Utopie et Transition, volet 2. C'est le nom de ce rendez-vous proposé par le Bureau des Temps, structure municipale qui adapte l'organisation du territoire au rythme de vie des citoyens. Et parmi ce qu'il fait, ce bureau des temps, il y a notamment des temps d'échange avec le public sous forme de conférences. Jeudi, c'est Baptiste Milondeau, un enseignant en économie et philosophie politique à Sciences Po Lyon, qui sera face au public pour interroger la valeur du temps dans la perspective d'un monde plus soutenable, équitable et inclusif. Et si le temps était un allié, et s'il fallait considérer que la sobriété passe par la réduction du temps de travail, le grand ordonnateur des temps de nos vies? Voilà quelques-unes des questions qui seront évoquées lors d'une conférence pour laquelle il faut réserver sa place. Rendez-vous sur le site métropole.rennes.fr pour plus d'infos. Et on ajoute que cet événement est organisé en partenariat avec la CRIE Centre d'Art Contemporain dans le cadre du cycle artistique Festina Lente, Hâte-toi lentement. La deuxième recommandation, c'est une performance poétique et musicale sur le thème de la révolte, de ruines et de rage. Un spectacle de la compagnie Accord Rompu qui est porté par Michael Bernard. Et c'est à voir au tambour sur le campus de l'université Rennes 2, jeudi à 20h. C'est la révolte, le contre-courant, des braises sur lesquelles on souffle, un amas de pensées qui ne veulent pas nous laisser quoi face à la parole médiatique. C'est un mouvement amorcé. Voilà l'objet de cette proposition qui mêle texte non théâtraux et musique live dans un objet qui se veut hybride. C'est à voir à partir de 14 ans. Les tarifs vont de la gratuité jusqu'à 5 euros. Et pour les réservations, direction le site univ-rennes2.fr. C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la Reine. Le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.